Alors, à propos de quoi vous avez posé cette question? À propos de quel exemple?
Par rapport au problème que posait la tradition elle-même, à laquelle on pourrait faire dire éventuellement n'importe quoi, et que l'historien sentirait besoin d'accréditer cette...
Mais non, qui fait dire à la tradition n'importe quoi? C'est des ignorants qui prétendent parler au nom de la tradition. Vous comprenez le drame de la tradition juive rabbinique, surtout d'ailleurs en milieu de culture occidentale, c'est qu'on a fabriqué des rabbins dans des écoles. On ne fabrique pas un rabbin dans une école. Ce n'est pas une école qui va donner la mémoire traditionnelle. On leur donne des livres, des dictionnaires, des artsaot, et puis on a besoin des historiens. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la mémoire. Je pourrais vous donner des exemples d'écoles rabbiniques où on apprend tout sauf la Torah. Parce que la Torah est censée être connue d'autre part. Et qu'est-ce qu'on...
achever et de trouver son achèvement dans un effort infini, dans un effort lui-même inachevé, l'achèvement. C'est donc dans le geste d'acquisition du plus que le mieux, mais non pas du tout dans cette acquisition elle-même, dans l'effort de, et non pas dans ce qui est acquis. Est-ce que c'est suffisamment clair? Mais nous avons pourquoi nous avons besoin de cela? Vézéo, Machelo, Neymar, Kahadam, Kito, Yoter, Nicolas, Nitsaïm. C'est la raison pour laquelle il n'est pas dit, à propos du récit de la création de l'homme, que l'on a vu que c'était bon, que Dieu a vu que c'était bon, plus que pour les autres créatures, qui Kolanim Saïm et Nibrahim, Veyeshlaem, Shimutam. Aval Adam, Lo Nibra Be'ashlama, Ve Lo Nimsa Adam Be'ashlama, Ve Zehu Shimato Be'otmo. Je traduis, ça veut dire que tous les êtres ont été créés parfaits d'un coup, sauf l'homme, et que la perfection pour l'homme consiste dans cet effort permanent d'acquérir la perfection. Or, cet enseignement du Maharal, qui est extrêmement important, parce qu'il nous éclaire ce que nous dit la Torah, que l'homme a une destinée, qu'il est destiné à une histoire. Et que cette histoire se définit, premièrement, dans la relation homme-femme, et deuxièmement, dans la relation d'engendrement. Cela est indiqué d'ailleurs par le fait que dans le verset qui décrit cette destinée de l'homme, à quoi l'homme doit devenir, il y a une forme hébraïque qui montre bien que c'est un avenir. Vous l'avez à la fin du verset 7 du chapitre 2. Vaïli ha adam le nefesh chaya. Et l'homme devint et destiné à devenir. C'est cela sur lequel je vais mettre l'accent. Vaïli adam le nefesh chaya. L'homme est donné à devenir personne vivante. Une personne vivante. Alors que pour les autres êtres vivants, pour les animaux, ils sont créés nefesh chaya, chacun à leur niveau. Alors en d'autres termes, pour résumer tout ça, c'est que tout ce qui existe dans le monde existe de façon définitive, il est de pied en cap, et l'identité de l'individu coïncide avec l'identité de l'espèce. Bien entendu, il y a le caractère singulier de l'individu dans n'importe quel collectif, dans n'importe quelle généralité d'être, mais malgré tout, c'est l'identité de l'espèce qui est chez l'individu. Quelque temps. Et alors que chez l'homme, il y a une destinée qui consiste à construire la personne au-delà de l'individu et par conséquent au-delà de l'identité de l'espèce. Ce qui nous fera comprendre tout à l'heure que la relation sexuelle pour l'engendrement entre l'homme et la femme au niveau de l'identité humaine n'a donc rien à voir avec celle qui se trouve chez les animaux. Comme d'ailleurs nous l'avons vu dans le texte, les animaux sont créés, il leur est demandé de se multiplier, mais le texte ne dit pas qu'ils ont été créés mâles et femelles en vue de cela. Tandis que pour l'homme, il y a ces indications. Et bien dans un autre texte du Maharal, qui se trouve dans le premier chapitre de Nefi votre Olam, le Maharal reprend cette analyse en nous faisant comprendre que l'homme par définition, devait être créé inachevé, et que son achèvement, c'est la femme. il le dit en propre terme, l'identité humaine. L'identité humaine est diminuée de quelque chose, et que cette complémentarité, si j'ose dire, parce que ce terme en français renvoie à d'autres idéologies, elle se trouve dans la femme. Mais il faut comprendre ça en hébreu. Et pour ça, je voudrais relier les deux textes du Maharal. Il ne s'agit pas du tout de la femelle par rapport au mâle. Puisque le Maharal vient de nous dire dans le texte que je viens d'analyser, que toutes les autres espèces vivantes sont créées dans leur perfection, que par conséquent, la fonction sexuelle est une fonction au niveau de l'espèce, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Et par conséquent, lorsque le Maharal nous dit que la Isha complète le Ish, cela n'a rien à voir avec l'identité mâle-femelle. C'est-à-dire que chaque exemplaire de l'homme, qu'il soit mâle et femelle, porte en lui ce même problème, d'être créé inachevé et de trouver dans l'autre le principe de son achèvement. C'est ce qu'avait dit le Midrash que je vous ai cité, lorsque Dieu lui-même explique le pluriel du verset Naase Adam Betzalmenu, à l'origine, dans l'acte de création, l'homme est pris de la terre et la femme est prise de l'homme. Mais à partir de maintenant, le pluriel indique qu'il n'y a pas Ish sans Isha, il n'y a pas Isha sans Ish et il n'y a pas les deux sans la Shrina. Vous voyez que cette répétition qui aurait pu être inutile, si on a dit qu'il n'y a pas d'homme sans femme, pourquoi ajouter pas de femme sans homme, ça signifie qu'au-delà de la différenciation proprement sexuelle au niveau de l'espèce humaine, il y a une toute autre signification de la complémentarité du couple et qui est réciproque. Que l'homme est inachevé et la femme est son achèvement, que la femme est inachevée et l'homme est son achèvement. Pour reprendre les termes en français, est-ce que c'est suffisamment clair? Et maintenant, nous pourrons donc poser le problème de la définition du couple. D'autres midrashim nous indiquent, à propos de ce fameux verset qu'on cite pour les mariages, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide à sa mesure. Tous les midrashim qui parlent de ça, si vous voulez tout à l'heure, dans vos questions, nous pourrons revenir sur en détail, nous indiquent que le véritable sens de ce verset n'est pas seulement un sens matrimonial. Le problème de la solitude, il n'est pas bon d'être seul, alors il faut diviser l'être qui était seul en deux de telle sorte que chaque partie ne soit pas seule. Que ça dépasse ça. Là, ça veut dire ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire en exemplaire unique, identité unifiée, comme nous le sommes dans le monde supérieur. C'est dans les mondes inférieurs que nous sommes divisés en deux corps, supports de ces deux inachevés. L'un qui est appelé l'homme lorsque son corps est mâle, et l'autre qui est appelé femme lorsque son corps est femelle. De ces deux êtres qui sont le même, Adam, un étant Ish parce qu'il n'a pas de Isha, et l'autre étant Isha parce qu'elle n'a pas de Ish. Reportons-nous à ce midrash. Le verset dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire unique, parce qu'il se prendrait pour Dieu. Et c'est pourquoi je vais le diminuer pour qu'il ne se prenne pas pour Dieu. Et comme se dit être diminué, c'est vraiment être dans le malheur, alors je lui donnerai une aide à sa mesure. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire, non, je m'explique, que nous n'avons pas affaire à un homme diminué pour qu'il ne soit pas Dieu, et c'est important aussi métaphysiquement, comme nous le verrons tout à l'heure, et puis des hommes diminués, qui seraient malheureux, parce qu'ils ne seraient que des dieux diminués, et tout seuls. Dieu, dans sa grande bonté, nous dit ce midrash, a fait deux exemplaires de cela, les uns qui sont mâles et les autres qui sont femelles, de sorte qu'entre eux ils ne soient pas seuls. Est-ce que c'est plus clair? Alors je reprends l'analyse au niveau du midrash. Le midrash nous dit très clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il risque le vertige de la folie de se prendre pour Dieu, risque de le prendre. Tout dans le monde est duel. Et si l'homme avait été créé, c'est-à-dire la créature consciente d'elle-même, les autres étant les créatures non conscientes d'elles-mêmes. Mais si l'homme avait été créé dans un exemplaire unique, alors il se serait pris pour Dieu. Et c'est le plus grand malheur qui peut arriver à la créature. Là, nous pourrions aussi parler de cela. Alors, pour mieux éviter cet échec, Dieu l'a créé diminué ayant besoin de l'autre, de faire sorte qu'il sache dans son besoin de l'autre qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Alors, ce qui aurait pu arriver, explique ce Midrash, c'est que simplement nous aurions eu un homme, une identité humaine, ni mâle ni femelle, c'est-à-dire une sorte d'androgyne originelle, digne pour ne pas être Dieu, mais dans l'ennui absolu, parce que en exemplaire du même non-sexe. Alors Dieu lui a donné, à Ezer Kenedo, Dieu lui a donné ce double visage, que l'homme peut être ou homme ou femme, parce que c'est entre eux que cet ennui lui passe. Donc c'est au second niveau que nous retrouvons le thème de la solitude. C'est pourquoi le Midrash disait Loïch, Veloïcha, Veloïcha, Veloïch. Mais dans le problème de la définition des données du couple, Ish et Isha, c'est la même chose. C'est un Adam diminué. L'un est diminué en homme et l'autre est diminué en femme. Et nous retrouvons d'ailleurs demain soir, et le fait que leurs corps sont différents, ça sert à faire des enfants. Mais c'est l'autre qui l'a mis. Nous retrouvons demain soir ce thème que cette relation entre Ish et Isha est selon la vision messianique de l'histoire provisoire, et que la relation fondamentale qu'il faut arriver à atteindre, c'est la relation frère-frère. Et que la première, la relation entre Ish et Isha, c'est une relation provisoire d'apprentissage. C'est entre Ish et Isha que se fait l'apprentissage d'être A et A. Et ça, nous verrons plus en détail demain soir. Je reviens surtout à cette première analyse. C'est-à-dire que la manière d'être de l'homme, pour pouvoir être, c'est d'être diminué de l'identité de Dieu. Il y a un verset de Psaume qui le dit clairement. Va t'arserrer ou mais à atteler. Et cette manière d'être diminuée, elle est le propre et de l'homme et de la femme. C'est ce qu'explique le Maharal en disant Adam est créé inachevé. Et son achèvement, c'est la femme. Et c'est réciproque pour la femme. La femme est créée inachevée. Et son achèvement, c'est l'homme. J'espère être sorti, si vous voulez, de cette fausse catégorie minimisante pour l'identité féminine, qui consisterait à dire que la femme n'est que l'achèvement de l'homme. Selon le Midrash que je vous ai cité, c'est bien clair, c'est réciproque. Et dans l'analyse du Maharal, il est clair qu'il ne s'agit pas du tout du mâle et de la femelle comme les autres espèces vivantes, puisque l'enseignement qu'il donne ne concerne absolument pas le mâle et la femelle des autres espèces vivantes. Il ne concerne que l'identité humaine. C'est-à-dire que l'homme est l'achèvement de la femme, comme la femme est l'achèvement de l'homme, parce que l'un et l'autre s'appellent Adam et Chava. En l'un et l'autre, il y a Adam, dont Chava est le complément. Nous allons voir immédiatement quel est le sens de cette relation en tant que couple. Mais d'abord, je voudrais vous citer un texte du Rav Kook qui reprend le même thème à propos du problème de l'identité morale de l'homme. C'est-à-dire, jusque-là, notre analyse est au niveau de l'identité métaphysique de l'homme. Mais je voudrais ajouter, d'ailleurs, que philosophiquement, il est clair pour nous, pour les théologiens juifs, que la seule manière pour l'homme, qui est la vraie créature de Dieu, d'exister, c'est d'exister comme digne par rapport à Dieu, parce que c'est la condition de son existence. Si la créature de Dieu était analogue à Dieu, elle n'aurait pas de spécificité, elle n'aurait pas d'identité propre, d'ipséité, comme on dit en philosophie, elle serait fondue en lui, elle serait perdue en lui, elle n'existerait pas, à la limite. Le principe est, Jerechatov l'Eti, la manière de se conduire de celui qui est bon, c'est de faire le bien. Par conséquent, Dieu ne peut que créer, Dieu, dans sa bonté, ne peut créer qu'aussi parfait que lui. Et pourquoi il a créé moins parfait que lui? C'est pour que nous puissions exister. Parce qu'aussi parfait que lui, nous serions lui et nous serions pas nous. Par conséquent, c'est clair. Bon. Par conséquent, la condition humaine, c'est d'être diminué de Dieu. Et la folie, c'est de vouloir être autrement que cela. Mais la consolation, c'est de savoir que l'on s'achève dans cet achèvement. Que si vous voulez, cette dialectique du couple, et je ne dis plus maintenant des sexes, parce que celle-là, elle sert à autre chose, que la dialectique du couple est de pouvoir être heureux dans la complétude que l'un donne à l'autre. Et Or, il y a une finalité mécanique à cela, il y a un apprentissage de l'altérité qui commence dans la relation d'autrui à autrui entre l'homme et la femme au niveau du couple. Nous sommes encore sur le premier point que je voudrais compléter par un texte du Rav Kook. Ensuite, nous arrivons au deuxième point de l'illustration que la Torah nous donne de cela dans l'histoire des patriarches. Et en conclusion, nous arrivons à la charnière avec l'autre thème, celui de demain soir, c'est-à-dire l'identité du fils dans le couple. Bien, le texte du Rav Kook pose le même problème, non plus au niveau métaphysique, mais au niveau moral. Je vais vous le lire, c'est un texte qui est le sixième paragraphe du chapitre 5 de Orot HaTshuva. Je vais d'abord le lire en hébreu, et ensuite je vais le relire simultanément en hébreu et en français. Mi bal'ave ma'hashevet HaTshuva מנוחתה וביטחונה לא יוכל האדם למצוא מנוח והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב את השלמות והשלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם מהגשימה בפועל וכמה כוחו חלש לכוון מעשה ולתואר של האידאה לצדק הגמור ואיך נשאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל לזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא העליגה והחפץ הקבוע אל השלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. Ce qui signifie en français, vous avez un texte de Rav Kook, ça ne se traduit pas dans aucune langue, même pas en hébreu, mais je vais essayer de lire simultanément en hébreu et en français. Et nous allons retrouver le même thème au niveau du problème moral. D'ailleurs, nous avons lu, il est le même thème, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai au niveau de la relation à la Torah, avec le Maharal au niveau de la relation avec la femme, et nous allons voir maintenant avec le Rav Kook au niveau de la relation avec la Tshuva. C'est-à-dire que l'homme est créé, diminué d'eux, c'est dans l'effort d'acquisition d'eux qu'il trouve sa perfection. Mais chacune de ces réalités, la Torah, la femme, la Tshuva, s'appelle en hébreu Zot. Si nous avions plus d'érudition à notre disposition, vous pourriez voir cela très directement dans les textes. Hein, les Zot, Ikare Isha, Kineish, Tukaha Zot, les Zot, la Torah, des autres qui avouent à Aaron et la Kodesh, Zot, c'est cette chose qui nous manque pour être Dieu, que les Kabbalistes appellent la Shrina, et qui est cette partie de nous diminuée de nous, et que nous retrouvons en l'autre. L'autre, c'est Zot. Alors la Torah s'appelle Zot, la femme s'appelle Zot, la chose à repentir, comme nous allons voir, s'appelle Zot. C'est la Shrina, Zot. Est-ce que c'est une idée bancaire, ces choses de... Eh bien, c'est ce qu'avait dit le Midrash, n'est-ce pas? Pas lui sans elle, pas elle sans lui, et pas les deux sans la Shrina. Je vois aussi ce que veut dire ce texte, au niveau du problème moral. Sans le projet de la Tshuva, mais pas la démarche de la Tshuva, sans le projet du repentir, sans le vouloir du repentir, sans l'idée du repentir, sans cette idée que le repentir est possible. Menuchata ubitrona, le repos et la sécurité que cela donne à l'homme. Lo yuchal adam mitzoma noir, l'homme ne peut pas trouver, nous dirions en français, le bonheur. Enfin, le bonheur d'être. Le manoir, ça veut dire... Manoir, de bien-être. Non, c'est plus que ça. Mais cette tension, le répit, voilà le mot que je cherche, le répit plutôt que le repos. Ou comme disent les psychologues, la rémission, lorsqu'il y a un... Le achaïm, aroukhanim, et la vie spirituelle, dont nous croyons les patères dans l'âme, ne pourrait pas se développer dans le monde, achouch amoussari. C'est-à-dire sans l'éventualité du repentir, eh bien, il ne pourrait pas y avoir de vie spirituelle. Et nous allons voir jusqu'où va cette analyse. Le sens moral, tomber armé à Adam, réclame de l'homme, est à ses éclatos, est à ses mythes. Le sens moral nous réclame la justice absolue, la perfection morale, la perfection. Or, nous savons que nous ne sommes pas parfaits par nature, par conséquent perdus. Et tout ça, ce sont des implications que je dégage, et que le Rambam va dire tout de suite. « Mais alors la perfection morale, Kamar et Chokahim et Adam et Hashima de Boral, combien elle est loin des possibilités de l'homme. Ça veut dire que nous sommes en principe appuyés à une position tragique. Notre sens moral nous réclame la moralité absolue et nous savons que ça nous est impossible. Alors serions-nous perdus? Point d'interrogation. Mais Kamar Kocho Chalach et Chavel Ma'ata de la Torah sur l'idéal à Tzedek Agamo. Et combien l'homme, essayez de rééclairer là-bas, il y a un. Et combien la force de l'intention même de l'homme pour orienter sa conduite vers la pureté de l'idéal de justice absolue est faible chez l'homme. Combien cette force est faible et comment et comment pourrait-il désirer ce qui n'est pas en son pouvoir? Les autres, c'est pour cette chose-là, c'est pour cette situation-là. Hatshuva est irique la dame, que la teshuva est connaturelle à l'homme. Vehi maslimato. Et c'est elle qui lui donne sa perfection, son achèvement. Et que la dame a l'outami de l'irchol. L'homme est toujours donné à des pièges. L'iyot pogem batele kuba moussa. Peut faire des fautes. En ze pogem et finutu. Et bien cela n'atteint pas sa perfection. Nous avons là une idée extrêmement importante. Le fait que l'homme fasse des fautes n'atteint pas son intégrité, n'atteint pas son intégralité. Parce que l'intégrité, l'intégralité de l'homme, sa perfection n'est pas d'être parfait, c'est d'être imparfait mais de vouloir se repentir. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, aucune faute ne peut atteindre l'identité humaine s'il y a le vouloir du repentir. Mais achar, chez Ikar Yesoda chez nous, puisque le fondement même de la perfection chez l'homme, c'est son désir de perfection. C'est ça, plus que désir. Chez Ifa, c'est ça, son exigence. Son exigence de perfection. Chez Ifa, voilà donc que nous avons aussi, au niveau de l'identité morale de l'homme, la même analyse anthropologique. La même anthropologie, si vous voulez. Il s'agit, s'il vous plaît. Il s'agit d'un être qui est créé, diminué, et par conséquent qui est voué à vivre en couple. Et cela est vrai par rapport à l'autre de l'individu, la femme, par rapport à l'autre de l'identité, la sagesse qui nous manque, la Torah, par rapport à l'autre au niveau de la conscience morale, la faute, c'est-à-dire l'intégrité qui manque lorsqu'il y a la faute. Et c'est constamment dans l'être de relation à cet autre, qui est autre, et qui est au féminin pour l'homme et qui est au masculin pour la femme, donc dans la relation du couple, que l'homme existe. Voilà pourquoi, si vous voulez, nous pourrions dire, nous en verrons plus jeudi soir avec le texte de la Gemara, le problème sexuel excède l'histoire de l'identité humaine. Alors que si j'ose dire, on ne trouverait pas cette obsession chez l'animal qui est, pour parler de façon anthropomorphique, préoccupé, poussé par la tendance à la perpétuation de l'espèce, beaucoup plus que par ce que la Torah va nous décrire dans les exemples que nous prendrons au niveau de l'identité humaine. Il me revient en mémoire un livre que vous avez peut-être lu et qui m'a fait une assez grande impression parce qu'il pose très bien ce problème-là. C'est un livre de Barjavel, c'est bien cela? Ou Barjavel, comment ça s'appelle? Barjavel. Il s'appelle La fin du tigre. Il décrit au niveau de l'obsession sexuelle de l'homme cette espèce de force aveugle et impersonnelle qui n'est réelle comme telle, comme tendance impersonnelle, qu'au niveau de l'identité animale. En réalité, ce qui est l'obsession de l'identité humaine, c'est la recherche de la relation alors, c'est-à-dire de la solution du problème du couple. Et en d'autres termes, comme nous allons le voir, c'est ce qu'on appelle en termes simples l'amour. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a cette obsession de la relation d'amour avec l'autre, parce qu'il n'y a pas là une relation de possession du point de vue du projet du Créateur, mais c'est la condition même de l'existence. Nous existons diminués, et ce n'est que dans la relation à l'autre que nous avons la plénitude de l'existence tout court. Or, elle est constamment, nous en sommes constamment privés, et elle est constamment à construire. Et nous trouvons cela, comme nous l'avons vu, au niveau de l'identité métaphysique de l'homme, de son identité sociale d'abord, et ensuite au niveau de son identité morale, dans une cohérence et une convergence qui est extrêmement précise dans les catégories d'enseignement traditionnel de la Torah. Eh bien, nous arrivons à la deuxième partie, assez rapidement. Si nous reprenons le récit des couples dans la Bible, nous apercevons que finalement il y a une organisation du récit qui nous montre l'effort de réussite jusqu'au couple qui aura engendré les enfants de Jacob, pour les appeler ainsi, qui est exactement Joseph et ses frères. Tout se passe comme si, nous reverrons ça du deuxième point de vue demain, tout se passe comme si le récit de la Genèse, de tout le livre de la Genèse, du livre des récits, c'est le récit de l'effort à travers les engendrements pour enfanter Joseph. C'est-à-dire l'homme qui aura été capable d'être frère. Et nous retrouverons cela demain plus en détail. À partir du moment où Joseph est enfanté, alors le récit s'achève, l'identité d'Israël est réussie, et l'histoire, proprement dite, de cette identité va commencer. Et nous avons, je vais prendre un certain nombre d'exemples, mais nous avons dans ce récit de la Genèse, intentionnellement, la Torah nous raconte l'histoire d'un certain nombre de couples qui sont déjà moins importants dans l'effort d'engendrement des fils, dans le sens de l'engendrement des fils de l'homme. Et bien, je vais prendre un des fils conducteurs, la relation entre le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Et bien, si j'ose dire, Adam n'a rien eu à faire pour avoir son autrui. Et c'est le point de départ de l'histoire. Dieu la lui fabrique. Il n'a aucun effort à faire pour rencontrer sa femme. La Torah ne nous raconte pas qu'il y a là un problème. C'est un point de départ. Et ils ne se disent rien. Sinon des paroles imprudentes. On ne nous dit pas qu'ils s'aiment. C'est la relation du couple au commencement. Nous retrouvons l'autre aspect de ce thème. De même, et déjà je voudrais vous annoncer ces différentes directions. La Torah ne nous dit pas que Adam et Chava s'aiment. On ne les voit pas parler, on ne les entend pas parler, ils ne se parlent pas, ils ne sont pas reconnus. Il faudrait voir cet exégèse plus en détail. Mais enfin, déjà, on survole. Ça ne marche pas très bien entre eux. Le Midrash va jusqu'à nous poser la question suivante. Mais lorsque le serpent a essayé de tenter Ève, que faisait Adam? Et le Midrash répond deux réponses. La première, il plantait des arbres. La deuxième, il dormait. C'est-à-dire, il était dans son jardin, en train de cultiver son jardin, ou bien il dormait. Intentionnellement, la Torah ne nous a pas montré la relation du couple réussie au niveau de Adam et de Ève. Qu'est-ce qu'il en résulte? Les deux enfants, un tue l'autre. La relation de fraternité ne peut pas être réussie parce que la relation du couple n'a pas été réussie. Et la Torah va chercher l'effort de réussite de l'identité frère. Dans quelle famille le frère sera le frère du frère? On va apprendre que c'est dans la famille où le couple s'aime. Voilà comment je vais vous montrer dans cette première ligne d'analyse. Avec Abraham. Et avec Abraham, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Abraham sort de Ur Kasdim avec une femme qui est déjà sa femme et dont le texte va nous obliger à hésiter de comprendre est-ce que c'est sa femme, est-ce que c'est sa sœur. Je vous éclairerai cela immédiatement, mais ça veut dire que c'est d'une famille humaine, la famille d'Abraham, d'où Abraham est sorti, où on sait déjà être sœur pour son mari et frère pour sa femme. Ça veut dire Abraham n'a pas eu d'effort pour obtenir sa femme. Elle sort du texte, je veux dire. Il sort du texte marié. pas, mais il y a déjà quelque chose de plus que Adam et Ève. C'est déjà une société humaine, cette société d'Occasville d'où est sorti Abraham, où on sort marié et avec une femme dont on peut dire qu'elle est sa sœur. Et le texte appelle ces femmes des sœurs. Et comme nous allons voir, surtout pour Rebecca tout à l'heure, pour éclairer un point important. Mais nous allons plus loin, avec Isaac. Alors Isaac, il y a une inquiétude. Est-ce que la femme pour moi existe? Reprenez-tu le récit, hein? Abraham envoie Eliezer dans la famille d'où il était sorti, et puis une très longue prière d'Eliezer. On sait ce genre de femme qu'il faut pour qu'Isaac se marie. Mon Dieu, c'est qu'elle existe. Et puis lorsqu'on lit ce texte avec, en y participant, alors on est comme ça, est-ce qu'il y en a une ou pas? Et s'il n'y en avait pas une, ça aurait été bloqué. Et donc, mais voilà qu'il faut un miracle. Et alors ce miracle se fait et Isaac a rencontré Rebecca. Vous voyez, nous reprendrons tout à l'heure ou demain le récit dans le détail, et voilà que ça s'est passé. Et puis alors avec Jacob, alors Jacob travaille 21 ans pour obtenir ça. Alors là, ça devient sérieux. Vous voyez, je vais vous citer simplement les versets. Car vraiment, ça apparaît dans le texte de façon massive. Et d'ailleurs, c'est confirmé par un texte des prophètes. Vous allez me dire le verset tout de suite, à propos de Jacob, Obisha Avad, comment est le verset? Obisha Shama. Et en vue d'obtenir ça et ça, il y a du travail. Effectivement, il faut que vous sachiez que Jacob était destiné à Rachel, il a dit aussi épouser Léa, mais il était destiné à Rachel. Alors il a d'abord travaillé 7 ans pour Rachel. Mais au bout de 7 ans, il a eu Léa. Alors il a dû donc travailler encore 7 ans pour Rachel. Donc les 14 premiers ans, c'est pour Rachel. Et puis finalement, les 7 ans pour le troupeau, c'est le troupeau de Rachel. Donc 21 ans pour Rachel. C'est bien pour Rachel. Et on apprend effectivement donc qu'il faut un effort d'acquisition du mérite d'obtenir l'autre. Mais surtout ce fait qu'on ne nous dit pas qu'Adam aime Chava. On ne nous dit pas encore que Abraham aime Sarah. On ne dit pas qu'il n'aime pas. Mais enfin, on ne dit pas que cette chose-là, Ahava, l'amour, c'est-à-dire le fait que, et pas eux deux seuls sans la shrina, c'est ça que ça veut dire l'amour, eh bien, est arrivé. Il y a eu la relation de fraternité entre Abraham et Sarah. On s'est reconnus comme l'un complément de l'autre et réciproquement. L'un a dit à l'autre frère et l'autre a dit à l'un sœur. Et donc la suite peut venir. Israël ne viendra pas d'Abraham directement. Hein? Il faut que la sélection continue avec Isaac. Et alors, avec Isaac, on nous dit que Isaac a aimé sa femme. Et je vais vous le dire. Verset 16 du chapitre 24 de la Genèse. Et Isaac amena Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Vaïkar et Rivka va tehil oleisha. Et il prit Rivka, elle devient sa femme. Vaïe eha beha. Et il l'a aimé. C'est la première fois que ça arrive. Vaïnach et Yitzhak achareimo. Et Isaac s'est consolé de sa mère. Alors là, c'est encore provisoire. Vous voyez? Tandis que de Jacob et Rachel, on lui dit il a aimé Stam. Il n'y a pas de consommation avec sa mère. Et alors, vous voyez, c'est déjà beaucoup. La relation du couple est déjà amorcée, mais elle est encore handicapée par la relation à la mère. Alors, ça ne marche pas très bien. De Isaac va sortir de Jacob et Esaü. Il va sortir de la grand-mère. Enfin, de l'attachement à la mère. Enfin, vous voyez ce qui se passe ici. Isaac aime Rebecca. Alors, Jacob peut naître. Mais il l'aime d'un amour mélangé encore avec l'amour qu'il a pour sa mère. Le texte est clair, hein? Alors ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire, le couple est là, ils vont se dire de leur soeur et frère, mais il y a un handicap, comme on dit, un écho. Ils n'arrivent pas à décrocher. Vous savez, la Torah nous raconte ici pas des petites histoires de petits couples névrosés, pas du tout. Elle nous raconte. Je veux dire, c'est pas un livre de... Bon, elle nous raconte le terrible effort qu'il a fallu faire à travers l'engendrement de l'identité humaine pour arriver à la relation du couple, il fallait l'inventer, il fallait la fabriquer, il fallait la faire, si j'ose dire. Et voilà comment, à travers quels efforts ça s'est fait, jusqu'à ce que c'est arrivé avec Jacob et Rachel. Et Jacob et Rachel, le verset est tout autre. Alors nous allons le voir. Verset 30. Du chapitre 29, lorsque Laban, en fin de compte, lui donne aussi Rachel, Vayavo, Gam et Rachel, et Jacob s'approcha aussi de Rachel, et dans ce Gam, il y a enfin, c'est arrivé, hein, et Vayehav, Gam et Rachel, Miléa, et il aima, même Rachel, plus que Léa. C'est un verset que vous devez quand même analyser un peu plus en détail. Alors on apprend par là que bien que Léa n'était pas la destinée de Jacob, elle était destinée à Ésaü. Vous vous rappelez de ce thème. Malgré tout, Jacob a aimé Léa, puisque le verset dit qu'il aimait Rachel plus que Léa. Ça voulait dire qu'il aimait Léa. Et il y a ce mot, voyez, il a aimé. Et il n'y avait pas sa mère dans cet amour, et il a aimé Rachel, alors va pouvoir naître l'enfant réussi. Ce que nous allons voir immédiatement. Mais je voulais d'abord vous donner cette gradation. Qu'est-ce que cherchait le récit de la Bible? Le récit de la Bible cherchait cette relation d'amour entre Ishé et Isha, et elle nous montre toutes les étapes de la difficulté. Et Israël n'a pu naître que parce que Jacob a aimé ses femmes. Alors que Abraham a été l'époux parfait. Il a sorti la relation conjugale de la bestialité. Il n'y avait plus de mâle et femelle, comme ça sera rejeté dans les situations extérieures à Israël, il y a époux et épouse, et on se dit frère et sœur. Mais il n'y a pas encore que le couple a réussi, complètement. Alors, Abraham engendre Isaac, et c'est par Isaac que ça continue. Il faut encore une autre étape. Et voilà que Isaac aime Rebecca. Les choses nous sont racontées dans un concret qui est beaucoup plus, qui est déjà beaucoup plus la réalité que nous devons résoudre. Et en plus, on ne se parle plus. Abraham ne parle pas à Sarah, sauf pour lui dire les consignes. Il dit que tu es ma sœur. Tandis que Isaac parle à Rebecca. Et puis, il rit entre eux. Il dit la Torah. Il s'en rit entre eux. Et puis, Jacob et Rachel. Alors là, ça parle beaucoup. Et voilà que nous arrivons, je voulais au principe de la conclusion provisoire. Alors voilà cette chose extraordinaire qui arrive, c'est que c'est de Rachel que va naître Joseph. Et qui est Joseph? Verset 24 du chapitre 30, va tikra et shemo Yosef. C'est le premier enfant que Rachel a eu. Tous les autres enfants viennent de Léa et des autres femmes. Enfin, Rachel enfant, et elle appelle son enfant Yosef. Les mots pour dire Yosef Rachel li ben aher. Que Dieu m'ajoute un autre fils. Ça veut dire le frère, ça veut dire. On a réussi à enfanter l'être frère. On peut avoir un autre frère. J'ai compris ce qui se passe là. Mais Yosef est le fils de l'amour de Jacob et de Rachel. Alors Rachel a vu dans son identité qu'on peut avoir encore d'autres enfants, il ne se passera plus ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Et elle dit que Dieu m'ajoute un autre fils, dans la mer, n'est-ce pas? Et verset suivant, nous retrouvons cela en détail demain, verset suivant, alors Jacob dit, c'est la fin de l'exil. Vaïli, Kaachel, Yoda, Rachel et Joseph, il arriva, lorsque Rachel a engendré Joseph, Vaïon et Yaakov et Laban, alors Jacob dit à Laban, Chalechemiz et Lecha et Mekomula. Renvoie-moi, laissons partir plus exactement que j'aille dans mon endroit. On apprend par là que toute l'histoire de l'exil, et pas seulement, il s'agit de l'exil d'Israël, de l'identité d'Israël. La cause de l'exil, c'est la recherche de la fraternité, et la fin de l'exil, c'est quand l'être frère est né. Quand Joseph apparaît, alors c'est la fin de l'exil. C'est le temps de ma chère venir. Et c'est clair, Rachel dit, ça y est, le fils de l'homme est enfanté, on peut avoir un petit frère pour lui, il ne sera pas massacré. Il est capable d'être frère. Et Jacob dit, eh bien, c'est la fin de l'exil. Nous reverrons pourquoi l'exil a repris. Parce que ce n'était pas complètement réussi. Mais on verra demain. Et puis, à travers même l'identité de la condition d'Israël qui porte cette histoire, qui vit cette histoire, qui l'assume, eh bien, c'est la condition de l'homme, de l'identité humaine tout entière, de l'histoire de son exil du paradis. lorsque la relation de fraternité, du coup, est arrivée à la relation d'amour réussi, alors étant sans que le fils de l'homme soit capable d'être frère, l'exil est fini. Ça veut dire, aussi au niveau de l'histoire humaine, la fin des contradictions de l'identité humaine, comme nous le verrons plus en détail demain. Je vous résume avant de conclure les différents points de cette analyse. Premièrement, nous découvrons que la relation du couple a une toute autre finalité que celle de l'engendrement. Je me suis mal exprimé. Elle a la relation de l'engendrement, mais de l'engendrement du fils de l'homme. Il s'agit de fabriquer une identité humaine, et cette identité humaine, elle a pour père l'identité homme. Mais elle a une autre finalité, celle de la construction de la relation d'altérité, de l'apprentissage de la fraternité. Et nous trouvons d'abord dans la description métaphysique de l'identité humaine selon la Torah, l'homme est intentionnellement créé, diminué, et c'est l'autre que dit homme pour la femme et femme pour l'homme, qui est son complément. Et par conséquent, ce complément ne peut pas être possédé. Il ne peut être que conquis perpétuellement dans une relation, dans un être de relation, mais pas eu, obtenu, possédé. Si vous voulez, selon la Torah, on ne possède pas sa femme, et chose plus cachée et plus grave, la femme ne possède pas son mari. Mais il y a une relation d'altérité, et c'est dans cet effort-là que la complémentarité se réalise. Cela est vrai aussi au niveau de l'identité morale, dans la relation avec la loi. La loi n'est jamais accomplie une fois pour toutes. Personne n'a pu dire, à moins de se prendre pour Dieu, j'ai accompli la loi. Vous voyez à quoi je fais allusion. La loi ne peut pas s'accomplir. Ce qui s'accomplit, c'est la relation de repentir à la faute obligée, étant donné l'être diminué qui est le mort. Est-ce que c'est clair? C'est plus que consolant, si j'ose dire, tout ce que ces maîtres nous enseignent. Enfin, c'est vrai. Et puis, cela est vrai aussi au niveau de la relation sociale, comme nous le voyons. Deuxième point, c'est ce que la Torah nous raconte lorsqu'elle nous raconte l'histoire des familles et des patriarches. Cet effort de construction du couple, et c'est quand c'est réussi que le fils de l'homme apparaît. Le premier digne de ce nom a été Joseph. Et nous retrouvons l'autre aspect de ce thème, la relation fraternité demain soir. Et après demain soir, de tel de la démarrage, où nous retrouvons toutes ces analyses qui ont été les introductions de la lecture. Maintenant, vous avez la parole. Alors, oui, j'avais oublié.